Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un deuxième entretien dans cette série des clés pour vivre, la brisure et l'envol, fragment d'une traversée intérieure. Je reçois toute la semaine son auteur, Éric de Rus. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes aussi auteur spécialiste de Sainte-Edithstein. Alors au programme aujourd'hui, dans ces quelques minutes, tout en reprenant un peu ce petit ouvrage, page 22, donc vous revenez aussi sur cette expérience que vous avez vécue dans votre corps, dans votre chair, l'immobilité, la fragilité, le corps qui s'arrête, c'est le silence, c'est le retrait.
Oui,
c'est le retrait et puis cette faiblesse qui vous met dans une inactivité apparente.
Oui, apparente.
Mais... Avec cette question, cette grande question qui pourrait faire l'objet, durant ces quelques minutes de quelques échanges, vous écrivez, vous interrogez, qu'en est-il de la vie qui semble s'être retirée? Vous n'êtes plus en activité.
Non.
Vous ne brillez plus. vous êtes dans ce silence et dans ce corps qui est douloureux et qui vous retire de ce monde.
Qui me retire exactement.
Pour un temps.
Qui me retire de ce monde, en tout cas, je ne savais pas pour combien de temps. Mais qui me retire physiquement et qui me retire socialement de ce monde. Et c'est comme l'hiver, devant l'hiver, quand on voit que la neige recouvre tout, on se demande qu'en est-il de la vie qui semble s'être retirée. On ne peut pas imaginer que pendant ce retrait apparent, eh bien, il y a la germination au cœur de la terre et que tout va éclater au printemps. Et donc moi, là, j'étais dans cet hiver et j'avais l'impression, tout s'étant arrêté, que la vie qui est mouvement, que la vie qui est action, que la vie qui est activité, tout est en mouvement dans la nature en permanence, en nous-mêmes. Eh bien, tout cela, j'y étais comme soustrait par l'immobilité, et donc je pouvais avoir le sentiment que c'était la vie elle-même qui s'était retirée, et que j'étais retiré du monde, exactement, retiré de la vie, que je n'apportais plus grand-chose à ce qui se passait au dehors, et que tout s'arrêtant, c'était comme une mort apparente. Mais en même temps, j'avais le sentiment, le pressentiment, la perception dans mon corps, que la vie... adopter un autre tempo en moi. Une musicienne me disait, le silence fait partie de la musique, ça chantait autrement. Mais c'était un visage de la vie que je ne savais plus, que j'avais oublié, parce que j'étais tout le temps dans l'activité. Donc, qu'en est-il de la vie?
Alors, qu'en était-il dans cette immobilité? Parce qu'on parle de la vie, on parle aussi d'entrer en amitié avec la vie.
Oui.
Et au fond, la vie, c'est comme un battement. Ce cœur aussi, ce corps et ce cœur qui bat.
Exactement.
Ces saisons aussi qui s'alternent, le printemps, l'été, tout refleurit.
Oui.
Et puis, cet hiver qui est comme un grand désert.
Oui.
Vous les avez traversés. Donc, c'est un rythme, un nouveau battement. Un battement qui ne se fait plus au battement du rythme d'une société d'un monde où on est dans la précipitation, dans l'agitation, la performance, la réussite est tout autre. Elle se dit, elle se contemple, elle se comprend différemment.
Et vous avez prononcé un mot qui en fait est central, le battement. C'est-à-dire que dans l'inactivité, dans l'absence d'œuvre extérieure, je devenais attentif, j'étais ramené. Tout simplement... au battement, d'abord physique, de mon cœur. C'est ça la vie, parce qu'il y a vie, parce qu'il y a une pulsation que l'on n'entend pas habituellement, ou qui est recouverte par tellement de bruit. Donc dans ce silence qui n'était pas un vide, parce qu'il n'y avait pas rien, mais dans ce silence, dans cet arrêt, je découvrais un battement, une pulsation, une respiration, au fond, un souffle. Et le souffle, c'est la vie, au sens même biblique. C'est-à-dire que même, vous voyez, l'expérience de la respiration, je devenais attentif parce que les journées s'écoulaient, parfois vous ne pouvez rien faire. Eh bien, il y a un moment où je prenais conscience que j'avais un cœur qui battait et je respirais. Et plus profondément encore, je faisais l'expérience que cette alternance de l'inspiration et de l'expiration était sous-tendue par un courant de vie très fin, très subtil, que j'appelle le souffle. Le souffle, c'est la pulsation de la vie. C'est-à-dire que j'étais soutenu dans l'acte physique de respirer par quelque chose de continu, qui ne faisait pas de bruit, une densité de silence extraordinaire, ce souffle. Et j'avais conscience, mystérieusement, que ce souffle, c'était l'Esprit Saint, en fait, que c'était une personne, que c'était, ce n'était pas juste un phénomène physiologique, ni psychologique, mais que c'était une présence. Que c'était une présence. Parce que là, il ne me restait plus rien que ça. J'étais ramené à cette présence d'une simplicité extraordinaire. Mais justement, habituellement, c'est nous qui sommes compliqués, qui sommes dans le faire, dans l'agir. Et là, il n'y avait plus rien. Et là où moi, je n'agissais plus, j'étais porté. J'étais habité. J'étais traversé. Et c'est ça le souffle. Et ça devenait, dans mon extrême fragilité, un monde en soi, un monde intérieur incroyablement riche et étonnamment où j'étais accordé au souffle que je percevais dans le vol de l'oiseau, dans les abeilles qui butinaient. Ça se répondait. En moi, dans l'extrême nudité, il y avait la même vie que celle que je voyais au dehors. C'était la même vie, en un sens, le créateur, et ce n'est pas du tout de l'immanence ou du panthéisme, mais comme dit Saint Jean de la Croix, il a laissé, par son passage, une trace de sa beauté. Ce Seigneur qui m'habitait, dans la personne de l'Esprit Saint, bien sûr reçu au baptême, qui est l'Esprit de Jésus, eh bien celui qui m'habitait, il avait aussi laissé son empreinte dans la création, non pas pour qu'on s'arrête à la création, mais pour que, à travers cette beauté que je voyais, on sache percevoir celui qui nous en faisait le cadeau.
Alors on parle du créateur, de la création, on parle de respiration, on parle de souffle.
Oui.
Au fond, on peut entendre ce souffle de Dieu aussi dans
mais
la
oui.
création et de sa créature.
Exactement, le oui. souffle que Dieu nous avait insufflé au départ, le souffle qui était la vie de Dieu qui maintient la création dans l'être et qui l'empêche de retomber dans le néant, parce qu'en fait on est porté, tout est porté. Et simplement dans la foi, moi je savais que ce que je percevais à l'extérieur me renvoyait à un autre que je pouvais admirer à travers cette création et auquel je pouvais communier. Mais c'est lui qui me rencontrait. Vous voyez, ce n'était pas moi qui mettais tout cela en œuvre, ce n'était pas moi qui organisais, je n'avais plus aucun projet. Je me laissais rejoindre et je découvrais ce dont j'avais le pressentiment, l'intuition. Il n'y avait pas de mots alors. Après, je jetais un peu sur un cahier quelques intuitions. Mais je n'essayais pas d'ailleurs de retenir ces choses, de les fixer. Elles me traversaient, j'en gardais une trace fugace et puis je refermais mon cahier et les journées se passaient ainsi.
Donc, vous écrivez toujours dans ce livre avec ce sous-titre, donc le titre du livre « La brisure et l'envol ». Et vous nous direz un petit peu, on va au fil des jours s'envoler, se rapprocher peut-être de cette histoire terrestre qui est une histoire pour nous conduire à cette autre histoire, l'histoire du ciel futur.
Oui.
Donc, « La brisure et l'envol » avec ce sous-titre « Fragment d'une traversée intérieure », vous écrivez les limitations physiques de toutes sortes sont aussi, c'est intéressant, un chemin de liberté. Là.
Oui, parce qu'alors ça, c'est quelque chose qui me fascinait déjà avant, mais que là, j'ai prouvé comment, dans les limites objectives, dans les contraintes, dans les impossibilités, tout ce qui est négatif, eh bien, comment là, il y a un espace possible pour une vie possible. Eh bien là, j'allais découvrir dans les limites de mon corps, très très simple, et dans les limites d'une maison dans laquelle j'étais, dans la limite, toutes ces limites, je ne pouvais pas bouger, aller où je voulais, etc. Dans ces limites-là, un espace m'était offert, donc un déploiement. Je pouvais déployer, quelque chose pouvait se déployer plutôt en moi, quelque chose pouvait se déployer. Et c'est ça au fond la liberté. La liberté, ce n'est pas comme on le croit souvent, de décider, de faire, de s'imposer, de maîtriser. C'est peut-être cela, mais profondément, la liberté, c'est la possibilité d'un déploiement. Quelle que soit la situation, il y a une possibilité de déploiement. Donc la mort n'a pas le dernier mot.
Donc même la maladie, un corps malade, un corps immobilisé.
Oui,
je pense aussi à tous ceux qui sont peut-être à l'écoute de cette émission du jour, Eric de Russe, immobilisés peut-être dans leur corps, dans leur chair.
C'est ça.
Et ce corps qui crie,
c'est
ce corps qui est quelque peu malmené,
c'est
en détresse. Donc je pense à tous ces malades.
Oui.
La liberté est possible.
Oui, parce que je savais...
Même dans ce corps emprisonné.
Oui, parce que je savais que je ne me définissais pas négativement par ses limites. Bien sûr, ses limites, elles existaient, ça c'est la réalité, mais elles ne me définissaient pas. Sauf si j'acceptais de me laisser définir par ses limites. Je n'étais pas défini seulement comme un malade, une personne fragile, etc. Oui, j'étais tout cela, mais ce n'était pas ça ma définition. En tout cela, qui était ma condition, mais pas ma définition, ma condition, c'était ma condition, ça c'est la réalité. Mais au cœur de cette condition, je découvrais une possibilité, c'est ça l'inespéré. Une possibilité, là où c'était à vue humaine, une impasse, une... dans ma condition, il y avait une possibilité, eh bien justement, de contempler, de recevoir, de s'émerveiller.
Et de grande liberté.
Et en fait, une liberté... Voilà pourquoi j'étais libéré du faire. Vous voyez, j'étais libéré de l'affairement. Une danseuse m'avait dit le mouvement n'est pas l'agitation. Donc, je quittais l'affairement, j'étais libéré de l'affairement et j'entrais dans un autre rythme, en fait. J'entrais dans une autre vie, peut-être la vraie vie.
Et la vraie vie qui, finalement, invite peut-être dans cette vraie vie à cet émerveillement de la beauté et du beau.
Oui, parce qu'on finit par ne plus rien voir quand on est affairé. On est tellement, on se croit tellement, finalement, le centre de toute chose, tout tourne autour de nos petites activités. Là, je n'étais plus le centre. Quelque chose était plus grand et je pouvais donc... C'est l'émerveillement, c'est quoi? C'est de s'ouvrir, de se décentrer parce que quelque chose de plus grand vous retient.
Alors on vous retient, moi je vous retiens ici aujourd'hui et puis jusqu'à la fin de la semaine. On peut découvrir, on peut commander aussi cet ouvrage qui invite le lecteur. Mmh. Je l'ai lu du début à la fin, mmh. Il est assez court, qui invite à entrer dans, au fond, cette contemplation. Je reviens oui. un peu à ce terme de contemplation pour regarder le beau, le vrai dans cette création qui est devant nos yeux
oui.
et revenir à cet émerveillement. Et qui dit émerveillement dit contemplation peut-être oui. de cette vie, ne passons pas à côté de la vie, mais quelle vie, quelle est la vraie vie hein? On peut c'est s'interroger ça. Et oui. vous nous interrogez. Donc ce livre est aux éditions Saint-Léger et je vous invite, chers auditeurs, à peut-être vous laisser entraîner dans ce voyage un peu intérieur qui peut mmh. bousculer, mais qui invite à se laisser bousculer pour découvrir ou redécouvrir la vie tout court.
Exactement.
À demain.
À demain, merci.
Merci.